Bonjour Kevin, comment ça va?
Salut Hugo, ça va bien et toi?
Ça va bien aussi, merci. On se retrouve en fait, c'est pas tout à fait prévu, ben c'est pas prévu. C'était semi-prévu, on a eu une proposition cinématographique de dernière minute. Donc on vous présente un nouvel épisode évidemment de rembobinage, épisode un peu surprise. On va quand même vous présenter très prochainement notre rattrapage, donc épisode de rattrapage sur les films sortis fin 2023, début 2024. Mais aujourd'hui, on parle d'un film qui est à l'affiche, je pense, depuis quelques jours à peine, c'est
En
bien
fait,
ça?
il prend l'affiche vendredi, donc
Voilà.
quand
Quand l'épisode va
l'épisode.
sortir, effectivement, donc prend l'affiche aujourd'hui, excuse-moi, j'étais un peu confus dans mes dates, prend l'affiche donc le 15 mars au Québec, film québécois cette semaine. Qu'est-ce qu'on a écouté, Kevin?
On a écouté Tu ne sauras jamais de Robin Aubert.
Effectivement, Robin Aubert, on en avait parlé du film et de Robin Aubert comme tel, quand on a parlé du film Les Affamés. Et ça fait quand même quelques années, ça fait 7 ans maintenant que je pense que ce film-là est sorti. C'était un des premiers épisodes, je pense que c'est le deuxième ou troisième épisode du podcast avec Jean Simon à l'époque, qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute. Donc effectivement, Robin Aubert, bon, pour les gens de notre génération, toi et moi, Kevin, c'était Léo dans Radio Enfer, mais je pense qu'il est vraiment tanné qu'on lui parle de ça. Et bref, Robin Aubert, qui, au fil des années, s'est positionné comme réalisateur assez audacieux, assez talentueux, certainement. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses?
Ben, je suis un gros fan de Robin, de ses films. Tu sais, moi, j'aime beaucoup le cinéma de genre, puis je trouve que c'est un des meilleurs au Québec qui a vraiment réussi à faire des films qui touchent à l'horreur, à la science-fiction, à différents genres. Et même dans ces films plus réalistes, souvent on sent quand même qu'il y a une envie de jouer un peu avec les codes du cinéma.
Oui, absolument. Moi, je me rappelle d'avoir vu, évidemment, Les Affamés. Moi, j'avais adoré ça. C'est un excellent, probablement un des meilleurs films de zombies que j'ai vu. Pas très loin de Shaun of the Dead. Dans ce genre-là, un peu Brasse la cage, un peu nouveau code du genre. Mais j'avais beaucoup, beaucoup aimé À l'origine d'un cri qui est sorti en 2010. Et c'était très touchant. Puis justement, avec des thèmes déjà de vieillesse, un peu relations familiales, tout ça, qui reviennent un petit peu dans le film dont on parle aujourd'hui. Pas exactement la même chose, mais bon, on a quand même la thématique de la vieillesse, certainement. Tu ne sauras jamais, c'est un film qui se passe durant le début de la pandémie, donc 2020. 4 ans, d'ailleurs, ça fait 4 ans cette année, là, ces jours-ci, en fait, ça c'est le 4e anniversaire, entre guillemets, du fameux 2 semaines de confinement du Québec. On se rappelle évidemment que ça n'a certainement pas duré seulement 2 semaines, mais bon, c'était une époque assez chaotique. On savait pas, c'est ça, qu'est-ce qui allait se passer. On savait pas si on allait en mourir de la COVID-19. On savait pas, bon, qu'est-ce qui allait arriver avec les restaurants, les salles de spectacle, les commerces, les réunions en familial ou bref. Bon, ça s'est passé aussi ailleurs dans le monde, mais ça a été très, très médiatisé au Québec. La gestion de la pandémie dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées, dans le milieu de la santé en général, mais surtout avec les aînés. Et donc, Tu ne sauras jamais, c'est un film qui parle d'un de ces aînés-là, qui s'appelle Paul, qui est déjà en résidence. Et là, bon, la COVID frappe. Et on suit, en fait, je pense qu'une seule journée. On suit un peu le quotidien, en tout cas ce qui se passe pendant que lui est en confinement. Finalement, il semble pas avoir la COVID, mais qui peut pas sortir de sa chambre. C'est vraiment, c'était une époque assez difficile là, pour beaucoup d'aînés qui ont justement perdu ces contacts-là, notamment avec la famille, leurs amis, tout ça, et qui étaient coincés dans leur chambre là, pendant des semaines et des semaines. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de Tu ne sauras jamais?
J'ai beaucoup aimé le film. Au début, j'ai comme eu peur, les premières peut-être 10 minutes. Je pense qu'il y a un premier plan qui dure quelque chose comme 11 ou 12 minutes. Puis c'est un plan extrêmement lent. D'abord, la caméra filme un mur, puis il n'y a vraiment rien. On voit juste un mur, puis pendant plusieurs minutes, c'est juste le mur, puis très lentement, la caméra se déplace jusqu'à ce que éventuellement on voit le reste de la chambre puis qu'on voit le protagoniste qui est ce vieil homme qui est dans un CHSLD. Puis je trouvais ça intéressant l'idée de d'adopter la lenteur à ce point-là, mais en même temps, tu sais, j'étais comme ok, pendant presque 2 heures que le film dure, est-ce que éventuellement je vais m'ennuyer? Puis tu sais, ouais, dans un sens, ça aurait été logique parce que quelqu'un, une personne âgée qui est dans une résidence, puis même en temps normal, tu sais, c'est pas des journées très excitantes, mais normalement, tu sais, il y a une salle commune, il y a moyen d'avoir des activités, de voir d'autres personnes, mais vu qu'on, comme tu disais, on est en plein confinement, en début de pandémie, ben cet homme-là, il est complètement seul. Très rarement, il y a, tu sais, une préposée qui vient le voir, mais le reste du temps, il est seul, puis il se passe absolument rien. Mais bon, j'arrive finalement à mon point, pourquoi j'ai aimé le film, pourquoi je me suis pas ennuyé, c'est que, tu sais, comme je disais, Robin Aubert, c'est un réalisateur qui aime beaucoup jouer avec le cinéma, puis même s'il fait un film ici qui est réaliste, puis qui, entre guillemets, c'est un film où il se passe rien,
ouais,
la façon que c'est filmé, les cadrages, la lumière, le montage aussi, c'est toujours intéressant, c'est même captivant de voir comment c'est montré, comment on montre l'ennui, comment on montre le vide, le rien, puis on pourra en parler davantage dans l'épisode, mais moi, finalement, je me suis pas du tout ennuyé. En tant que cinéphile, j'étais vraiment... J'étais fasciné par ce film-là.
Ben, je te dirais que j'ai beaucoup aimé aussi. Puis moi aussi, le film commence, d'abord c'est ça, c'est en 4-3, je me dis OK, là on vient déjà on adopte un ton plus, je veux pas dire artistique, mais choisir le format, choisir le cadre en fait, c'est déjà un geste cinématographique en soi. Tu choisis pas... Je veux dire, on n'est pas dans une époque où c'était présenté en 4-3. De toute façon, les films ont très, très souvent été en salle, c'était en 16-9 depuis bon des temps, ou l'équivalent d'eux, là, en format plus large, en espèce de boîte rectangulaire. Donc, d'offrir une image qui est carrée, ça vient vraiment donner une espèce de, je veux pas dire claustrophobie, mais c'est dans le ton, c'est-à-dire... dans la chambre du monsieur, bon, beaucoup de choses vieilles. Le monsieur en question, l'acteur, ben, en fait, qui n'est pas un acteur de formation, qui s'appelle Martin Hinault, qui a 88 ans, qui joue un rôle qui est excellent là-dedans, mais t'as un peu l'impression quasiment que c'est lui qui est dans sa chambre un peu. C'est un, évidemment, c'est une personne âgée, comme on disait, bon, il est confiné. Là, t'as l'impression que l'image nous, elle-même nous confine un peu. Que tu mentionnais, il se passe rien, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on attend qu'il se passe quelque chose. Et donc, ça, premier plan, comme tu mentionnais, c'est un mur. Puis à un moment donné, je me disais, est-ce que c'est moi qui... Le lien qu'on nous a envoyé pour le visionnement, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il n'y a pas de son? Puis là, tu commences à entendre notre prêtre Paul respirer. Puis tu dis, OK, c'est le style. C'est ça qu'on va avoir comme style durant le film. Et... le fait qu'il se passe encore une fois rien, entre guillemets, moi, ça, je me suis dit justement, je vais regarder, tu sais, des choses que tu as mentionnées, je vais regarder la technique, je vais regarder la direction photo. Et il y a vraiment, il y a souvent des longs plans sur des portions de la chambre où il se passe rien. Le lavabo, la toilette, la porte, le mur, le plafond en espèce de tuiles, tu sais, l'espèce de tuile que tu vois partout dans les bureaux, justement, dans les hôpitaux, c'est commandant en vrac, quasiment, là, donc, et ça donne le ton que, comme tu l'as indiqué, c'est que, tu sais, non, il se passe pas grand-chose, mais en même temps, c'est un peu normal, parce que, tu sais, c'est pas un film, par exemple, sur... Le premier ministre qui doit gérer la crise, puis à tous les jours, il y a des nouveaux chiffres de la COVID, puis à tous les jours, il y a des questions de est-ce qu'on donne des subventions pour les gens, puis tout. On est vraiment comme, on attend que ça se passe. Et c'est vrai que, non seulement pour les personnes, surtout pour les personnes âgées, mais pour monsieur, madame, tout le monde, début, jusqu'à temps qu'on ait les vaccins, ben, on attendait qu'il se passe quelque chose. Tu sais, oui, il fallait travailler, puis oui, il fallait faire l'épicerie, puis oui, bon, mais, t'as pas le choix de dire, bon, on attend que la situation se corrige d'elle-même parce qu'on, et toi et moi, on n'est pas des spécialistes en biologie ou en virologie. On n'est pas en train de travailler 24 heures sur 24 pour justement créer un remède. On attend. Donc, on est vraiment dans cette idée-là. Et tu mentionnais, c'est ça, les questions techniques, le jeu de lumière, tu sais, pour montrer le temps qui passe, au lieu d'avoir une horloge qui avance, c'est ce qui est un peu classique et cliché même. Là, on a vraiment la lumière qui se déplace sur le mur d'une pièce. Et là, tu dis, OK, le temps avance. Mais on sait jamais, on nous dit jamais quelle heure, en fait. Donc, c'est une espèce de temps arrêté, mais qui avance quand même. Donc, c'est vraiment... Tout ça, là, ça c'est venu me chercher et me dire, OK, vraiment, il pensait à ses affaires. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun plan de caméra qui était tourné un peu à la va-vite. J'ai l'impression que chaque plan, il l'a travaillé. Chaque plan, mm-hmm. il s'est dit, il faut que ça soit ça exactement. Puis vraiment, pour ça, là, chapeau.
Oui, puis tu sais, même si c'est quelque chose qui est désolant d'une certaine façon ou qui est banal ou qui n'est pas... Il n'y a rien de spectaculaire. Mm-hmm. C'est très beau comme film. Esthétiquement, on sent le soin qui a été porté aux images. Tu sais, c'est presque comme des tableaux, comme de la peinture. Tu sais, la couleur, entre autres, il y a beaucoup de vert, presque oui. tous les murs, puis il y a beaucoup d'objets qui sont verts. Puis c'est un vert très particulier qu'on retrouve souvent dans les hôpitaux, dans des résidences de ce type-là, mais... Ça crée vraiment le style du film que vraiment, littéralement, ce film-là, il y a une couleur. On pourrait montrer n'importe quel extrait du film, n'importe quelle image, puis on ferait « Ah, OK, ça, c'est Tu ne sauras jamais ». On reconnaît la couleur du film.
Je t'avoue que quand tu m'as parlé, tu m'as demandé si je voulais qu'on parle de ce film-là, puis je dis « Oh, OK, Robert Aubert, j'avais vu l'annonce, puis j'aime bien ce réalisateur-là déjà ». Mais, tu sais, quand tu as un sujet comme ça, tu sais que ça sera pas une comédie. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Ouais. C'est pas... tu sais, récemment, on m'a parlé d'une comédie romantique avec Zach Braff qui se passe à Québec. Je suis comme, OK, tu sais, c'est un autre style, évidemment. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit l'occasion de rire aux éclats dans Tu ne sauras jamais, là, clairement. Mais j'avais un peu peur de me lancer là-dedans parce que ben d'abord, ça fait pas longtemps. Moi, j'ai l'impression que c'était hier, là, la pandémie. Là. Puis en un sens, c'est pas encore terminé. Je veux dire, sur le plan virologique, oui. Là, mm-hmm. On peut encore attraper la COVID. Puis on se rappelle très bien, toi et moi, puis les gens qui nous écoutent vont certainement très bien se rappeler de où ils étaient en mars 2020, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça. Donc, c'était comme trop proche encore pour en parler. C'est comme si, je sais pas, tu faisais un film sur Mégantic. Je sais qu'il y a une série télé qui a été faite, mais tu sais, c'est comme si la poussière n'était pas retombée. Il y a ça d'abord, puis ensuite, tu sais, on a tellement entendu parler des conditions horribles qu'il y avait dans les résidences, puis dans les CHSLD, puis les commissions d'enquête après ça, puis les gens qui étaient sous-payés, les préposés qui sont pas, tu sais, qui refusent de travailler parce qu'ils ont peur d'attraper la COVID, puis ça peut se comprendre, ou qui sont justement... Dans le film, il y a une préposée, elle est bénévole. Ben, tu sais, tu te dis, il faut vraiment vouloir, mm-hmm. c'est de l'abnégation puis du courage de dire, je vais aller faire ça, pas payer, puis je vais me mettre en contact avec des gens qui sont vulnérables et qui peuvent donc attraper la maladie ou la transmettre. Je dis déjà, travailler dans un CHSLD, moi, je salue les gens qui le font parce que je sais que je serais pas capable. Donc, en plus, avec l'histoire de faut que tu mettes à peu près 8 couches de protection, puis faut pas que tu te rapproches des résidents parce que là, tu sais, tu pourrais avoir des problèmes. Bref, j'ai commencé à écouter le film, puis je me suis dit, est-ce que ça va être misérable un peu comme film? Est-ce que ça va être, sans tomber dans l'excès puis le misérabilisme? Mais j'avais peur un peu comme d'être pas bien, puis d'être... Mm-hmm. Tu sais, qu'on nous mette pas bien pour juste le fait de nous mettre pas bien, là. Est-ce que toi, t'avais un peu cette crainte-là avant d'écouter
le film? Par rapport à ce que tu dis, la peur un peu que j'avais, c'était pas tant du misérabilisme. Je m'attendais pas à ce que Robin Aubert aille dans cette direction-là. C'était plus, tu sais, en effet, ça fait quoi, seulement 4 ans, le début de la pandémie, c'est encore frais dans notre mémoire, on l'a tous vécu. Fait que, tu sais, si ça avait été un film très explicatif, qu'on voit constamment des bulletins de nouvelles, qu'on nous explique constamment qu'est-ce qui se passe dans le monde et particulièrement au Québec, peut-être que ça aurait été un peu redondant, puis on aurait fait « Ah, OK, on s'en souvient ». Mais ce qui est bien dans le film, c'est que c'est complètement immersif. On est du point de vue de ce vieil homme-là et on a très peu accès au monde extérieur. On n'a pratiquement pas accès à l'extérieur de sa chambre. Donc, on fait juste vivre cette journée-là de sa perspective et dans mon cas, dans le tien aussi, clairement, on n'est pas des personnes de 88 ans dans un CHSLD. On l'était pas non plus il y a 4 ans. Donc, on n'a pas vécu exactement cette situation-là. On a vécu un confinement, mais à cet extrême-là d'être dans une résidence comme ça, puis d'avoir pratiquement accès à personne, puis de même, il y a des trucs... Tu sais, le monsieur, il a une couche, puis il attend très, 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 très longtemps à ce que quelqu'un vienne changer sa couche. Ça prend des heures et des heures et des heures. Tu sais, heureusement, on n'a pas vécu quelque chose d'aussi... on parle carrément de perte de dignité dans ce cas-là.
Oui. Non, effectivement. Puis, tu sais, moi, je repense à mes grands-parents qui, bon, malheureusement, sont décédés depuis... puis ils ont pas vécu ça comme ça, mais je sais que ma grand-mère du côté paternel, après le décès de mon grand-père, ben s'est retrouvée en résidence. Puis c'était pas une chambre, c'était un appartement. Hein, puis bon, elle avait quand même de l'espace. Puis mais elle devait rester dans sa chambre, dans son appartement. Puis on s'est pas beaucoup parlé malheureusement pendant cette période-là, mais je suis certain que ça a été difficile pour elle. Fait que je peux même pas imaginer la difficulté des gens qui étaient juste une chambre. Puis justement, puis bon, notre personnage dans le film, semi-autonome, dans le sens où tu es capable de sortir de son lit, puis capable de manger, puis tout ça. Donc, mais il va dire à un moment donné, je suis plus capable d'aller aux toilettes. T'sais, il faut, pour ça qu'il porte des couches, justement. Donc, tu sais, déjà, comme tu disais, perte de dignité, perte d'autonomie. Donc, dans ce contexte-là, si tu rajoutes, comme on disait, toutes les embûches de la pandémie, ça devait être terrible. Il y a eu un balado qui est devenu une pièce de théâtre par la suite. Et là, évidemment, je me suis dit qu'il fallait que je cherche le nom avant de faire l'épisode. Et évidemment, je n'ai pas cherché le nom avant de faire l'épisode. Mais donc, c'est ça, il y a eu un balado qui est devenu une pièce de théâtre. C'était un projet d'une jeune femme qui allait voir sa grand-mère presque tous les jours à sa résidence, qui était au départ une résidence privée, et qui l'enregistrait sur son téléphone, enregistrait les échanges, puis sa grand-mère qui était autonome, puis qui était, tu sais, bon, lucide et tout ça, et éventuellement commençait à avoir un peu de perte de mémoire, puis perte d'autonomie, puis bon, un peu de démence même peut-être, et qui, là, c'est ça, est arrivé la pandémie. Et là, c'était l'horreur. Cette grand-mère-là a perdu tous les liens qu'elle avait, c'est ça, avec l'extérieur. Et on entend, quand elle réussit à lui parler de peine et de misère, avec un cellulaire dans un Ziploc, là, quasiment pour éviter de donner la COVID avec les objets, là, ce qui n'est jamais arrivé. Là, mais bon. Il y avait cette panique-là au début de la crise. Tu t'entends... les pertes, tu vois que cette personne-là perd ses repères et perd son autonomie, et perd sa capacité de raisonner, puis de bon. Et c'est horrible. J'ai pas vécu ça, heureusement. Ma grand-mère avait d'autres déclins, mais c'était pas dans ce sens-là exactement. Je sais pas toi si t'as vécu ça, mais c'est pour ça que ce film-là est venu chercher quelque chose en moi, qui justement ces souvenirs-là, puis le souvenir aussi du balado, puis de la pièce. Et j'écoutais, je me rappelle plus si dans le balado ça avait fait la même chose, mais quand je suis allé voir la pièce de théâtre, j'ai eu les larmes aux yeux, là, parce que tu avais des extraits qui n'étaient pas là dans le balado, tout ça, puis justement, elle a fini par plus reconnaître sa petite-fille, puis tout ça, puis là... Et tu sais, ça fait partie de la vie, malheureusement, là, le déclin et puis éventuellement le décès. Mais bref, pour revenir au film, c'est ça. J'avais pas, tu sais, on dit des fois, ça ferait du bien d'avoir un film d'action, quelque chose, un peu de Arnold qui tire dans la jungle en disant, allez-vous-en à l'hélicoptère, tu puis de dire, ouais, tu sais, grosse vue, gros bras, gros papau. En tout cas, mais ça reste que, tu sais, c'est un très beau film, et c'est très bien fait et, c'est très humain. Tu sais, on parlait encore de long plan, puis je m'excuse, je parle beaucoup, là.
On parle c'est de un podcast, plans. C'est normal.
Oui, je sais, c'est un podcast, faut qu'on parle, mais c'est pas un monologue non plus.
Oui, oui.
Mais tu sais, c'est ça, tu sais, on dit, bon, longue scène, long plan. Au début, notre personnage, il est là, puis il se réveille, puis il fait ses affaires, puis c'est très, très humain, là, tu sais. C'était...
Mais ce que je voudrais mentionner, c'est que t'as nommé l'acteur, en fait, qui est un acteur non professionnel, qui s'appelle Martin Nau. Il est tellement bon. Pour quelqu'un qui a jamais joué au cinéma, puis je pense pas qu'il a joué nulle part ailleurs, même pas à la télé, au théâtre, rien. Je pense que c'est vraiment quelqu'un, un ancien policier, si j'ai bien lu, qui, comme ça, sur un coup de tête, a décidé de passer une audition. Puis il est super bon, il est vraiment naturel. Puis je trouve que, tu sais, on disait que tout le côté visuel, la réalisation du film fait que ça reste captivant, mais c'est aussi captivant grâce à Martin Nau, à cet acteur-là, que même quand on passe de longues minutes à juste un plan fixe sur lui, son visage, son langage corporel, tout ça, c'est toujours intéressant, puis il a jamais l'air de... ça a jamais l'air faux, c'est toujours authentique, il a l'air de vraiment vivre cette situation-là. Puis, il y a pas énormément de dialogue dans le film, surtout qu'il est seul la majorité du temps. Donc, il parle pas tout seul, tu sais. Des fois, il grogne un peu, il fait des petits sons de personnes âgées qui est sûrement mal un peu partout. Puis, on comprend malgré tout toute sa vie intérieure, on ressent des émotions, on comprend qu'est-ce qu'il pense. Tu sais, évidemment, il trouve le temps long, il s'ennuie de son amoureuse parce qu'il y a une femme qui vit dans la même résidence que clairement il a pas vu depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines à cause du confinement, puis il se demande qu'est-ce qui se passe avec elle. Puis tout ça, c'est vraiment, on comprend tout ça, puis souvent à travers son jeu physique, tu sais, vu qu'il y a, c'est pas vraiment expliqué en mots.
Non, absolument. Je disais quand je parlais de très humain, c'est que c'est naturel, tu sais, c'est sûr que si on avait pris un acteur qui était plus jeune puis qu'on l'avait maquillé pour le rendre plus vieux, tu sais, il aurait pas eu le même impact. Là, t'as vraiment l'impression qu'on est dans sa chambre à lui, tu sais. Bon, évidemment, j'imagine qu'il est plus autonome que ce qu'on nous montre dans le film. En tout cas, je lui souhaite, évidemment, là. Non, t'as tout à fait raison. C'est un acteur, c'est un excellent acteur. Il y a un moment que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça montre bien, tu sais, le désir d'une normalité. En fait, il y a deux moments. Il y a un moment où, effectivement, il écoute des sons d'oiseaux avec un magnétophone. Puis tu vois, ça, c'est des trucs que pas besoin d'expliquer trop longtemps. C'est à un moment donné, il ouvre un tiroir, puis dans le tiroir, t'as genre un livre qui s'appelle « Le son des forêts du Québec », quelque chose comme ça, ou « Le son des oiseaux du Québec ». Et à un moment donné, c'est ça, il écoute une cassette de son d'oiseau, puis c'est comme s'il se détendait, il fait des mots, tu sais, il fait des mots croisés, tout ça. Mais ce que j'ai beaucoup aimé vraiment, c'est quand il se lève, quand il se réveille, il prend le temps de se peigner. Même s'il y a des cheveux qui partent un peu dans tous les sens, là, mais il prend le temps de se peigner. Puis tu dis, OK, il y a cette routine-là de... C'est pas parce que t'es en résidence, c'est pas parce que t'es confiné que t'es plus un être humain. T'sais. Fait que pour ça, c'était très doux. En fait, même si le film est difficile à certains moments, là, puis bon, on vous donnera pas... vous pouvez imaginer, là, je veux dire, ceux qui ont vécu, effectivement, ceux qui ont vu les images de la pandémie, puis ceux qui ont vécu ça de proche ou de loin, peuvent comprendre là, à quel point, ça peut être difficile. Mais c'est un film qui est très doux, malgré tout.
Oui, je suis d'accord que même si, tu sais, la maladie puis la mort rôde un peu partout... soit dans le hors-champ, tu sais, souvent on entend tousser à travers le mur, on entend la dame qui est dans la chambre d'à côté qui tousse constamment, fait que tu sais, ça a quelque chose d'un peu glauque, Puis, tu sais, il y a un petit moment aussi, à un moment donné, qu'il regarde par la fenêtre, puis qu'il voit un camion qui amène des clairement des cadavres, là. Tu sais, c'est pas graphique, mais on voit des personnes qui sont dans des espèces de sacs de, je sais pas si c'est de cuir ou de, je sais pas trop quoi.
Des sacs mortuaires, effectivement.
Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, fait que... T'sais, on comprend que c'est une situation vraiment dramatique de mort et de maladie, mais le film en soi, comme tu dis, il y a de la douceur. T'sais, le personnage de Paul Vincent, qui est joué par Martineau, c'est pas quelqu'un qui est en colère, qui est vraiment grognon, qui chiale constamment, qui est enragé contre sa situation. T'sais, clairement, c'est pas une situation facile, mais il est quand même, on le sent bienveillant. Il est patient quand les préposés viennent le voir et disent « Bon, ton dîner va être en retard, tout ça. » Il les engueule pas, tu sais. Tu sens qu'il est comme « Ben oui, ok, je comprends, tu sais. » Puis aussi, parlant des préposés, tu sais, ça aurait pu être un film très, très engagé politiquement puis essayer de dénoncer une situation puis de dire « Ça n'a pas de bon sens, sont maltraités, nanana. » Mais non, les personnages des préposés, on sent que c'est des personnes bien intentionnées qui font ce qu'elles peuvent. Tu sais, c'est sûr qu'ils manquent d'effectifs, donc sont pas assez là, il y a pas assez de suivi avec les patients, mais tu sais, on n'a pas l'impression que c'est juste pour mal faire, là.
Non, puis tu sais, clairement, en tout cas, je l'espère, parce que c'est une job qui est très demandante, même en temps normal. Moi, je suis persuadé que si tu travailles dans ce milieu-là, dans le milieu de la santé en général, c'est que tu veux bien faire, tu veux aider les gens. Donc, effectivement, la dénonciation est là parce que, bon, parce qu'on sait évidemment ce qui s'est passé aussi, mais la dénonciation est là, mais comme tu dis, c'est pas un film qui est engagé au point de nous mettre un peu le nez dedans en disant « Voyez, là, voyez le problème, c'est ça le problème. » Donc, c'est là, on le voit, c'est pas surexpliqué, surexplicité, mais c'est là, et c'est, je pense que ce film-là, dans ce sens-là, réussit à trouver un équilibre entre un trop plein d'optimisme et, comme je disais, c'est pas nécessairement du misérabilisme, mais tu sais, de trop amplifier les problèmes. Parce qu'encore une fois, c'est ça, c'est que cette personne-là, tu l'as dit, pas grognonne, nécessairement. Et des moments donné où elle est tannée, c'est normal, là. Tu passes ta journée dans une chambre, tu vois personne, tu sors pas, tu parles pas à la femme que t'aimes, c'est comme à un moment donné, t'sais, allô, là.
ouais.
Mais bref, encore une fois, je pense que c'est le je sais pas si c'est Robert Aubert qui a aussi scénarisé avec Julie Roy, que je ne connais pas là, comme scénariste.
C'est sa conjointe et elle est aussi scénariste, clairement, puis je pense qu'elle est réalisatrice aussi.
OK. Mais bref, je la connaissais pas là, avant de voir ce film-ci. Mais bref, de marcher sur la ligne, ça, c'est vraiment tour de chapeau, non, un coup. J'ai juste une expression anglaise en tête et c'est pas ça du tout que je vais employer. Bref, c'est de l'excellent travail. Pour ça, c'est vraiment très, très bien fait. Ma crainte, et c'est pas par rapport à la qualité technique ou à la qualité artistique du film, ma crainte, c'est que les gens aient pas nécessairement envie de se replonger là-dedans. Je sais pas toi ce que t'en penses, là.
Ben, c'est sûr que c'est pas un film qui va faire des millions au box-office comme Dune ou... c'est un film... Mais en même temps, ça doit pas être un film qui a coûté une fortune. C'est tourné pas mal au complet dans un seul lieu, pratiquement avec un seul acteur. Donc, ça doit être un budget quand même assez limité. Donc, ça a pas nécessairement besoin de rapporter 10 millions au box-office. Puis je pense que c'est ça. Je pense que les gens... qui s'intéresse au cinéma, qui s'intéresse au film de Robin Aubert, ça vaut la peine d'aller le voir. Tu sais, c'est pas une proposition mineure dans sa filmographie. Moi, je trouve que c'est un de ses meilleurs films. C'est vraiment quelque chose de super réussi en tant qu'objet de cinéma. Mm-hmm. Mais aussi, tu sais, je pense qu'on en a assez parlé, même si on n'a pas envie d'entendre parler de la pandémie, qu'on est comme, on est passé à autre chose. C'est pas un film de... T'sais, c'est pas un documentaire, mettons, non, vraiment avec des têtes parlantes qui nous expliquent tout ce qui s'est passé. T'sais, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment plus ça travaille notre patience puis notre empathie de vraiment passer du temps avec ce vieil homme-là ou pratiquement dans sa peau, de ressentir ce qu'a pu ressentir une personne dans cette situation-là pendant la pandémie. Tu sais, ça aurait pratiquement pu être un film qui se passe pas pendant la pandémie, tu sais, qui aurait été juste c'est quoi le quotidien d'une personne dans un CHSLD. Je pense qu'il y a quand même déjà de l'isolement, même si c'est pas carrément un confinement, là, tu sais.
Non, absolument. Puis tu sais, avant qu'on enregistre, je cherchais le titre du film dont on a parlé en 2022 déjà, donc ça fait quasiment 2 ans. Vortex de Gaspar Noé qu'on avait vu au cinéma du parc, qui là aussi parlait de vieillesse, d'un déclin, mais là c'était vraiment plus déclin psychologique. Puis vraiment là on n'est pas, tu sais, comme on l'a dit, Martin Hinault, son personnage de Paul n'est pas en, tu sais, il perd pas la mémoire, en tout cas, ça semble pas être le cas, là. Il perd pas la mémoire, il est pas atteint de démence, il est pas, tu sais. Donc, on n'est pas là, mais justement, ça me rappelait quand même Vortex un peu, dans le sens où on suit ce quotidien-là, qui peut parfois être lourd et difficile, puis on est comme, on nous impose un peu de dire, OK, vous êtes, autant dans Vortex, on était dans l'appartement, puis on n'en sortait presque jamais de ce couple de personnes âgées-là. Autant là, on est dans la chambre, et encore une fois, on n'en sort presque jamais parce qu'évidemment, c'est le confinement, bon, puis la pandémie, tout ça. Donc, j'en déduis qu'effectivement, tu recommandes « Tu ne sauras jamais ».
Oui, je recommande fortement pour les raisons que j'ai dit. Je pense que ça vaut la peine de... Tu sais, tu disais, ah, c'est pas un film de pan-pan avec Arnold puis des explosions. Tu sais, puis on peut aimer les films d'action, mais en même temps, prendre le temps de justement regarder quelque chose qui est plus lent, plus contemplatif. Puis, tu sais, clairement, c'est du grand cinéma. Ça vaut la peine de justement peut-être sortir de sa zone de confort. Mettons qu'on est plus habitué d'écouter des films hollywoodiens. Puis de voir, non, un film, ça peut... C'est pas obligé d'être monté comme un vidéoclip puis qu'il se passe quelque chose à chaque 30 secondes. Il y a un rebondissement. Tu sais, non, on peut vraiment faire prendre le pari de la lenteur puis de vraiment... oser demander aux spectateurs d'être patient puis vraiment de découvrir vraiment ce qu'on lui propose sans que ça soit du pur divertissement.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis c'est quelque chose dont on a déjà parlé au podcast, certainement à quelques reprises, ce désir d'essayer des nouvelles choses, ce désir de sortir des sentiers battus, ça se manifeste évidemment déjà de notre côté là, avec le choix des films dont on parle. On aurait très bien pu faire un balado que sur les films hollywoodiens ou que, bon, sur les films plus lents comme celui de Robin Aubert. On choisit de mélanger parce que, bon, on a des goûts éclatés, peut-être même des fois éclectiques, et c'est bien. Et puis, ce qui est encore mieux, c'est que ce genre de film-là, ben, ça peut exister en parallèle, justement, avec d'une deuxième partie, ou ça peut exister en parallèle avec n'importe quel autre film. Et c'est une belle œuvre. Je pense que, tu sais, c'est le genre de cinéma qu'on devrait encenser davantage. Pas nécessairement encenser, en fait, c'est pas le bon terme, mais mettre de l'avant, puis tu sais, de dire justement au spectateur, vous êtes évidemment libre de votre interprétation, puis libre de l'apprécier ou pas, mais allez voir ce genre de film-là, puis soyez exposés à ce genre de réalité-là aussi. Bon, je sais pas s'il va y avoir là aussi un saut à popcorn avec une espèce de bouche avec des dents au caoutchouc, ça serait un peu bizarre. Mais pour plus sérieusement, c'est ça, c'est un très, très bon film. Et je pense que Robin Aubert prouve, encore une fois, qu'il est un excellent réalisateur. Je ne sais pas à quel point il pourrait faire des choses audacieuses, encore plus différentes, si on lui donnait le budget que, par exemple, dont Denis Villeneuve a profité là, pour, pour faire deuxième partie. Peut-être qu'il n'aimerait pas ça en même temps. Je serais curieux de poser la question. Mais tu disais, bon, regarde, presque pas de budget, tournage dans à peu près une seule pièce, un seul acteur à peu près. Bon, tu peux faire quand même d'excellents films avec ça. Donc voilà, tu ne le sauras jamais. Si c'est à l'affiche, bon, quand vous allez écouter cet épisode-ci, ça sort donc le 15 mars, c'est à l'affiche aujourd'hui, entre guillemets. Donc voilà, ça va être en salle. Je ne sais pas à quel point ça va être. La distribution va être large, là, dans combien de salles au Québec ça va sortir. Je sais que c'était passé aussi à Cinémania l'année passée.
Oui, il y avait eu sa première mondiale à Cinémania, je pense que c'était quoi, en novembre ou quelque chose du genre. Oui,
voilà. Malheureusement, Cinémania, moi, je vais pas très souvent parce que, bon, il y a toutes sortes d'autres choses en même temps. Il y a toujours comme à peu près 8 festivals de films à la fois. Mais donc, voilà, c'était sorti à Cinémania et là, ça sort pour le grand public, là, donc en salle le 15 mars. Kevin, ben merci beaucoup d'avoir été là.
Ben merci à toi. Comme on disait, c'était une proposition un peu plus... exigeante, là, c'était pas hey, on va faire je sais pas moi Rambo 3 là.
Ben peut-être qu'éventuellement on fera Rambo 3 pour la voûte donc l'épisode exclusif pour les abonnés Patreon, mais c'est ça. C'est la preuve que on peut aimer le divertissement, puis on peut aimer les films qui font un peu plus réfléchir. On n'est pas dans quelque chose non plus de complètement abstrait là, puis d'inaccessible. On est dans un film qui est très concret, mais qu'effectivement, un style différent, un rythme différent, et ça fait du bien. Même si le sujet est pas super joyeux, c'est normal, c'est la pandémie, c'est rarement joyeux ce genre de choses. Mais voilà, donc tu ne sauras jamais, comme on disait, là, c'est dans les salles du Québec, là, donc dès le 15 mars. Merci à tout le monde qui nous écoute, évidemment, d'être là aussi, d'être fidèle au rendez-vous. J'ai brièvement mentionné là, il y a quelques instants, on a une section qui s'appelle « La voûte ». Qui en fait ce sont des épisodes exclusifs de Rembobinage sur des films qui ont marqué leur époque, films un peu plus anciens. Donc, on a déjà quelques films qui sont disponibles, notamment la trilogie Batman de Christopher Nolan. On continue de vous offrir, une fois par mois, de nouveaux films qui vont s'ajouter. Et si vous voulez avoir accès à ça, c'est très simple, il y a deux façons. Vous vous abonnez sur notre page Patreon, donc c'est 5$ par mois. Vous avez accès évidemment à toutes les archives de la voûte. Vous avez également accès, évidemment, à tous les films qui vont s'en venir, là, toutes les critiques qu'on va ajouter donc dans cette section-là. Ou si vous vous dites, ben écoutez, au moins 5$ par mois, c'est trop, ça m'intéresse pas. Il est possible d'acheter les films à la pièce, donc d'acheter les critiques à la pièce. C'est dans la section boutique de notre Patreon, donc vous avez les liens là dans la description de l'épisode. Ou sur notre page Patreon, justement, vous avez accès à tout ça. C'est très, très simple. Avant de terminer, je vous invite, comme toujours, à vous abonner à la page Facebook du podcast. On a également une infolettre, donc chez pieuvre.ca, on a une infolettre. C'est livré tous les samedis matins. Ça comprend tous les contenus publiés durant la semaine, y compris les épisodes de podcast. Donc sur ça, je vous dis merci et à bientôt.